Apocalypse, chapitre 3, versets 14 et 18. Écris aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Bonjour à tous, bien-aimés, frères et sœurs et amis et connaissances. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui pèse sur mon cœur et qui, Dieu voulant, et si nous concentrons chacun nos affections sur ces choses, pèsera sur le cœur de chacun à qui ceci est adressé. Pour faire un bref récapitulatif, vous vous souviendrez que nous avons vu que Dieu envoie un message vif et tranchant à l'église de Laodicée, la dernière période de l'histoire de la terre. Comme nous pouvons le voir dans ce fameux passage d'Apocalypse chapitre 3, verset 14 à la fin. Et il envoie ce message vif et tranchant qui tranche entre la moelle et les os, telle une épée à double tranchant et qui distingue entre les desseins et les pensées et les désirs de l'homme. Et il envoie ce message à cette église de Laodicée pendant cette dernière période de l'histoire de cette terre. Il l'envoie pour révéler au peuple de Dieu sa vraie condition morale et spirituelle. Ça qu'il fait. Il dit, que dit-il ? Je vois et je connais tes œuvres et elles ne sont ni froides ni bouillantes. Tu es tiède. Et à qui parle-t-il ici ? Il parle à l'ange de l'église de Laodicée. Ce sont des détails vers lesquels j'attire notre attention et vers lesquels, par la grâce de Dieu, nous nous tournerons à un autre moment. Mais pendant cette semaine, je me suis dit, il y a quelque chose d'absolument indispensable sur quoi il faut que mes affections soient dirigées et que je vais partager avec nous. Donc avant d'aller plus loin dans les développements historiques qui sont liés, directement liés au message de Jésus à Laodicée, nous voulons maintenant nous pencher sur le conseil profond que Jésus, le témoin fidèle et véritable, adresse ici à son peuple. Réécoutez-le avec moi. Réécoutez le Seigneur Jésus qui parle. Que dit-il ? Apocalypse chapitre 3, verset 18. Je te conseille. Pourquoi lui conseille-t-il ? Parce que il est tiède. il n'est ni froid ni bouillant. Et il lui a dit que s'il continuerait ainsi à l'ange, le messager, s'il continuerait ainsi, il le vomirait de sa bouche. Parce qu'il dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais Jésus poursuit et dit, et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Et maintenant, voilà son conseil. Que dit-il ? Je te conseille donc d'acheter de moi, dit le Seigneur, de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre. Je le vois, je te connais, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, tu es tiède. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es l'ange de l'église, de Laodicée. Le peuple devrait venir chercher la connaissance à ta bouche. Mais tu es tiède. Je te dis que tu es tiède. Et maintenant, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Comprenez, frères et sœurs. Le mot ici, ange, c'est angelos dans le grec. Et ce mot angelos, ça se traduit par ange, mais ça se traduit aussi par messager. Et le messager de l'Église, ce n'est autre que le ministre, le ministère de cette Église. Ceux qui prophétisent et parlent au nom de Dieu et transmettent les conseils, les avertissements, les exhortations et la révélation de l'amour de Dieu. Mais ici, l'ange de l'église de Laodicée est tiède. Et donc, le conseil lui est adressé. Mais comme on a vu la semaine dernière, ce message à Laodicée, Ellen White nous disait sous l'esprit d'inspiration qu'il était applicable au peuple de Dieu en ce temps, en son temps, à son époque. Et donc cela ne se réduisait pas simplement au ministère, mais c'était adressé d'abord au ministère et ensuite le ministère était censé retransmettre ce message. Et donc, il nous conseille d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu. Donc vous voyez ici, il y a deux chemins de réflexion qui se proposent à nous, mais ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de laisser l'un de ces deux chemins pour plus tard et de maintenant nous concentrer sur le plus important. L'autre ne doit pas être ignoré, mais nous y viendrons quand le temps viendra. Et donc, concentrons-nous vers cet aspect personnel du développement spirituel lié au message à Laodicée. Qu'est-ce que cet or ? Qu'est-ce que cet or que nous sommes conseillés d'acheter de Jésus pour devenir riche ? Nous le lisons dans l'esprit de prophétie, dans le commentaire biblique des écrits d'Ellen G. White à la page 1888, où il est écrit l'or que Jésus veut que nous achetions de lui est l'or raffiné par le feu. C'est l'or de la foi et de l'amour qui ne contient aucune substance contaminée. Qu'est-ce que cet or éprouvé par le feu? C'est l'or de la foi et de l'amour. De l'amour. C'est un or. Mais le peuple est tiède. Et il est pauvre. Et il est aveugle. Et Jésus nous propose d'acheter de lui de l'or. Mais quel or? Un or qui ne contient aucune substance contaminée. Nous allons y revenir. Elle poursuit. Les vêtements blancs sont la justice de Christ, la robe de noces que lui seul peut donner. Le collyre est le vrai discernement spirituel qui fait tant défaut parmi nous, car les choses spirituelles se discernent spirituellement. Donc voilà un étalage clair et précis de la définition concrète de ces paroles de Jésus. Mais nous n'avons fait qu'une partie de toute la signification intime et puissante de ce message. On veut continuer dans ce développement. Quel est cet amour qui est un or, qui est éprouvé par le feu? C'est ça que l'on veut savoir. Parce que vous avez ici ce peuple qui est le peuple de Laodicée, mais qui est tiède. Et qui est tiède à cause de la condition du ministère, de ses pasteurs, de ses ouvriers, qui sont tièdes. Et donc le peuple est tiède parce qu'il a été nourri de tiédeur. Et quel est cet amour que Dieu propose pour résoudre la condition tiède de son peuple? Allez avec moi dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 et verset 13. Rappelez-vous, nous avons lu que c'est la foi et l'amour qui ne contient aucune substance contaminée. Aucune substance contaminée. Donc, qu'est-ce qu'il est? C'est un amour pur. C'est un amour saint. C'est un amour glorieux. C'est cet amour qu'il nous conseille d'acheter de lui. De lui. Donc, cela veut dire qu'il a cet amour. N'est-ce pas? N'est-ce pas la conclusion logique de ces choses? Il dit, je te conseille d'acheter de moi. De moi, j'ai cet amour, j'ai cette foi qui ne contient aucune substance contaminée. Lisons Jean chapitre 15, verset 13, où Jésus dit « Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Est-ce qu'il y a un plus grand amour que ça? Dites-moi, est-ce qu'il y a un plus grand amour que l'amour de Dieu? Que l'amour de Jésus? Il a dit, nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour. Il l'a dit. C'est le Seigneur de gloire. Allez avec moi dans 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 10. On explore ici, on explore l'or éprouvé par le feu. C'est pas n'importe quel or. Il n'y a aucune substance contaminée. Il est éprouvé 7 fois dans la fournaise ardente. 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. En quoi est l'amour? C'est que, alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a donné son Fils. Et Jésus s'est donné lui-même alors que nous étions encore ennemis, comme c'est écrit dans Romains chapitre 5. Voilà des ennemis! Voilà des rebelles, voilà des enfants désobéissants, voilà des pécheurs, des personnes indifférentes. Ils se donnent pour eux, ils se donnent pour moi. Et il dit, nul n'a un plus grand amour que moi pour toi. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Ses amis. Il dit même ses frères. Ses frères. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. En d'autres termes, j'ai commis ces péchés, je mérite le résultat juste de ses péchés. Juste, c'est juste. Attendez-vous de Dieu une chose moins juste que nous attendons sur la terre des tribunaux? Vous attendez que le voleur reçoive sa sentence juste? Vous l'attendez? Vous attendez que ce soit normal? Vous ne disiez pas qu'ils sont injustes, c'est juste pour avoir attribué une sentence à un criminel, vous ne disiez pas cela, mais pourquoi disiez-vous cela pour Dieu? Il n'a aucun désir que le méchant périsse. Il ne prend point plaisir à cela. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus en propitiation pour nos péchés. Pour nous rendre propices à lui. Lui, il est déjà propice. Mais nous, il fallait nous rendre propices. Et donc, Jésus dit, vous me regardez, nul n'a un plus grand amour que cela, que moi, que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16, on lit « À ceci nous avons connu l'amour de Dieu, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » On est en train d'explorer ici. Et on va poursuivre. On va poursuivre. C'est ça l'amour de Dieu. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Dieu a donné sa vie. Il n'a pas juste envoyé son fils, il a donné sa vie. Son fils, c'est sa vie. Et il a donné sa vie pour vous et moi. Pourquoi? Parce que nul n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et si vous allez dans le Cantique des Cantiques, vous voyez ici quelque chose de merveilleusement profond pour exprimer, encore une fois, cet amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans Cantique des Cantiques, au chapitre 8 et au verset 6 et 7. Dans le Cantique des Cantiques, vous avez ici cette illustration symbolique de la relation de Jésus à son Église. Et elle est pour lui comme une femme, une merveilleuse femme, une douce et délicieuse femme. Et il est pour elle un merveilleux homme, un merveilleux époux. Et dans le contexte de cette illustration, vraiment dénuée de sensualité, mais remplie des sentiments qui vibrent dans le cœur de Dieu, on lit cela dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8 et verset 6, où il parle à son Église et il dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras. L'amour est fort comme la mort, et la jalousie est inflexible comme les enfers. Leurs embrasements sont des embrasements de feu et une flamme de l'Éternel. Beaucoup d'eau ne pourrait éteindre cet amour-là, et les fleuves même ne le pourraient pas noyer. Si quelqu'un donnait tous les biens de sa maison pour cet amour-là, certainement, on n'en tiendrait aucun compte. » Beaucoup d'eau ne pourrait éteindre cet amour-là de Dieu. Vous avez les eaux, tout type d'eau. Les eaux qui coulent des affections purement humaines, les eaux qui coulent de la sensualité humaine, les eaux des émotions, les eaux de l'excitation, les eaux des ambitions charnelles. Mais Dieu dit, beaucoup d'eau ne pourrait éteindre cet amour-là. Et si, quand bien même on donnerait tous les biens de sa maison pour cet amour-là, la balance ne bougerait même pas. Ça n'est pas digne d'être comparé à l'amour de Dieu. C'est un amour plus fort que la mort. C'est intéressant parce que dans les Proverbes, dans le livre des Proverbes, on lit que la femme... Allons-y, brièvement. Proverbes, chapitre 7. Il s'agit ici de la femme étrangère, au verset 5. Proverbe chapitre 7 et verset 5. Où il dit, verset 4, « Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle la prudence ton amie, afin qu'elle te préserve de la femme étrangère et de la femme d'autrui qui se sert de paroles flatteuses, etc. » Et verset 25, il est écrit « Que ton cœur ne se détourne point vers les voies de cette femme et qu'elle ne te fasse point égarer dans ses sentiers, car elle en a fait tomber plusieurs, blessé à mort, et grand est le nombre de ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du sépulcre. Il descend aux demeures de la mort. » Hein? Et qu'est-ce qui est écrit ici dans les Cantiques? L'amour est fort comme la mort. Donc vous avez ici un amour de Dieu qui est fort, mais qui est à l'opposé complet de cette séduction fatale. Et Jésus dit, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras. » Beaucoup d'eau ne pourrait éteindre cet amour-là. Et maintenant, j'aimerais lire les déclarations de l'esprit de prophétie pour élargir notre méditation sous l'inspiration. Dans Message choisi, volume 1, à la page 182, au paragraphe 3. L'amour de Dieu nous dévoile la plus merveilleuse veine de vérité et expose à l'Église et au monde les trésors de la grâce de Christ. Quel amour merveilleux, insondable, qui a porté Christ à mourir pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Quelle grande perte pour une âme qui comprend les justes exigences de la loi et qui néanmoins ne comprend pas la surabondante grâce de Christ. Il est vrai que la loi divine révèle l'amour de Dieu quand on la présente comme la vérité en Jésus. En effet, le don de Christ offert à ce monde coupable doit occuper une large place dans chaque discours. Il n'y a pas lieu de s'étonner si les cœurs n'ont pas été attendris par la vérité quand celle-ci a été présentée d'une manière froide, sans vie. Rien d'étonnant à ce que la foi ne se soit pas emparé des promesses divines quand les ministres et les ouvriers évangéliques ont négligé de présenter Jésus en relation avec la loi de Dieu. Il eût fallu rappeler souvent cette assurance de point, lui qui n'a point épargné son Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point aussi toutes choses avec lui? Romains, chapitre 8, verset 32. Donc elle est en train de dire ici, ce n'est pas étonnant, elle parle en son temps. Et elle dit, ce n'est pas étonnant si les âmes, les cœurs n'ont pas été attendris par la présentation de la vérité, si celle-ci a été présentée d'une manière si froide et sans vie. C'est ça la raison. froide et sans vie. La vérité est présentée comme cela. Rien d'étonnant à ce que la foi ne se soit pas emparée des promesses divines quand les ministres et les ouvriers évangéliques ont négligé de présenter Jésus en relation avec la loi de Dieu. Vous comprenez? Pas juste présenter Jésus, pas juste présenter la loi de Dieu, mais présenter Jésus en relation avec la loi de Dieu. C'est lorsque nous faisons que cela, frères et sœurs, que nous sommes encouragés à nous emparer par la foi des promesses divines. Parce que seul ce message entier peut vraiment constituer une prédication et une présentation de l'évangile éternel qui est annoncé dans le premier ange d'Apocalypse chapitre 14. Elle continue. Satan est bien décidé à ne pas permettre aux hommes, écoutez bien, Satan est bien décidé à ne pas permettre aux hommes de voir l'amour de Dieu qu'il a amené à donner son Fils unique pour sauver une race perdue. Car c'est la bonté de Dieu qui conduit les hommes à la repentance. Vous comprenez? C'est seulement en discernant d'une manière présente et puissante que on peut être conduit à la repentance. Seulement en discernant d'une manière présente et puissante l'amour de Dieu, que l'on peut être conduit, que Dieu, par sa bonté, peut nous conduire à la repentance. Vous pouvez parler de conspiration et de nouvel ordre mondial et de Jésus tant que vous voulez, les âmes ne seront pas, les cœurs ne seront pas attendris par cela. Ils seront endurcis par une prédication, une présentation froide et sans vie d'une vérité. Si c'est la vérité, mais que ce n'est pas aimable, que ce n'est pas agréable, que ce n'est pas digne de louange, alors l'apôtre nous dit sous l'inspiration que ce n'est pas digne de notre concentration et de notre méditation. Vous le savez, d'accord, mais passons à autre chose. Passons à autre chose. Ceci ne nous préparera pas au retour du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui le fera? C'est la bonté de Dieu qui conduit les hommes à la repentance. Elle continue. Oh! Comment réussirons-nous à mettre en évidence devant le monde le profond et immense amour de Dieu? Impossible de l'envisager autrement qu'en nous écriant, voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Disons donc aux pécheurs, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. En présentant Jésus en qualité de représentant du Père, nous pourrons dissiper les ombres jetées sur notre chemin par Satan en vue de nous empêcher de voir la miséricorde et l'amour indicible de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Regardez à la croix du calvaire. Il y a là un gage permanent de l'amour sans borne et des compassions infinies du Père céleste. Qu'est-ce que nous sommes encouragés à faire pour acheter de lui de l'or éprouvé par le feu? Regardez à la croix du calvaire. Comment? Par la foi qui se saisit des promesses divines. La croix n'est-elle pas une promesse pour le pécheur qui se repent et qui croit? Si, si, c'est une promesse que Dieu ne méprisera pas le pécheur qui court vers lui dans la repentance et l'affection en vue du sacrifice qu'il a fait pour notre salut et notre rédemption. Comment est-ce qu'on réussira à mettre en évidence devant le monde ce précieux amour de Dieu? Elle dit impossible de l'envisager autrement qu'en nous écriant « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Comment? En disant « Voyez », en tournant les regards d'une manière vivante et intelligible vers cet amour. Que l'on puisse prendre la main du pécheur et que l'on puisse nous diriger et saisir par la foi et les affections entières de notre cœur cette main de la miséricorde et des compassions infinies de notre Père céleste. Et donc, frères et sœurs, est-ce que, à la lumière de tout cela, vous pouvez entendre Jésus dans le jardin de Gethsémané et à la croix? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait à la croix? Écoutez-le avec moi. Saisissons-nous par la foi de cette expression de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il disait? Alors que les Romains, les soldats, l'avaient cloué au bois et qu'il venait de précipiter la croix dans son socle avec violence, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que vous arrivez, comme moi, à saisir la profondeur de cet amour? Essayez de vous mettre à sa place. Si souvent nous entendons, nous lisons ces paroles de Jésus et nous disons « Mais quoi? Je ne comprends pas. » Mais si c'était vous, si c'était moi, comment j'aurais répondu à cela? Ces personnes dont je suis la seule espérance sont en train de me sacrifier? Non, non, non! Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit pour exprimer l'amour qui est en lui, qui est l'amour du Père? Il dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de sacrifier leur seule espérance du salut. Et quand le centurion, il a vu cela, il a finalement été témoin oculaire de Jésus qui expirait sur la croix en ne redonnant pas, en ne répondant pas avec une même véhémence et une même violence à toutes ces injures dont on l'injuriait? Qu'est-ce qu'il a ressenti, ce centurion? Certainement, certainement, c'était le Fils de Dieu. Il a compris l'amour de Dieu. Et nous aussi, frères et sœurs, nous surtout, il faut que nous saisissions cet amour pour pouvoir mettre en contraste cet or. À l'opposé de ce sentiment charnel qui nous donne l'impression que nous sommes riches. Quoi que ce soit, la chair et le diable, en ces derniers jours, s'efforcera de toute sa force et son pouvoir séducteur de vous détourner de cet amour de Dieu. N'est-ce pas ce que nous avons lu? Dites-moi, n'est-ce pas ce que nous avons lu? Satan est bien décidé, bien décidé à ne pas permettre aux hommes de voir l'amour de Dieu qui l'a amené à donner son Fils unique pour sauver une race perdue. Car c'est la bonté de Dieu qui conduit les hommes à la repentance. Il est déterminé à cela. Frères et sœurs, je vous exhorte, je vous en supplie, écoutez, frères et sœurs et amis et connaissances, écoutez ceci. Satan est décidé, bien décidé, à ne pas permettre, sous aucun prétexte, aux hommes de voir cet amour de Dieu qui nous conduira à la repentance lorsque nous le regardons, que nous le voyons, que nous le contemplons de nos propres yeux et que nous y discernons en Jésus cet amour qui est plus grand que tout autre amour. Et donc, il a toutes sortes de stratagèmes pour faire en sorte que nous perdions cet amour de vue et que nous laissions nos affections être charmées et enchantées et absorbées par tout sauf cette foi et cet amour de Jésus. Mais il y a écrit dans Matthieu chapitre 24, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dites-moi, de quel genre de persévérance nous parle-t-il ici? Une persévérance jusqu'à la fin. Persévérer pour résister à toutes les tentations et à toutes les séductions de Satan. Et continuer de tendre notre oreille au témoin fidèle et véritable qui nous conseille d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, vraiment, véritablement, éternellement. Riche. N'a-t-il pas été éprouvé par le feu, hein? Quand il était entre les deux malfaiteurs, et que même celui qui aurait dû être le plus sensible de cœur s'est mis à l'injurier, lui le Fils de Dieu, n'aurait-il pas pu être tenté de répondre par l'appareil? Non, rien de tout cela. Un amour, un or éprouvé par le feu. Et ils sont là, au pied de la croix, ils lui disent, les autres, il peut les sauver, mais lui, il ne peut pas se sauver. Que le roi des Juifs descende de la croix et nous croirons en lui. Hein? Qu'est-ce que vous pensez que ça fait naître dans le cœur de l'homme le plus intelligent et le plus fervent, et le plus zélé, et le plus puissant qui ait jamais marché sur notre terre. De l'or éprouvé par le feu. Il nous conseille d'acheter de lui cet or. cette foi, qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 14, verset 12? C'est ici la patience des saints. Mais d'où est-ce qu'elle leur vient, cette patience? C'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qu'est-ce que c'est comme foi? La foi et l'amour. Vous ne pouvez absolument pas avoir la foi si nous n'avons pas eu une vision véritable de cet amour de Dieu qui a poussé Dieu à donner son Fils unique pour sauver moi, pécheur, membre de la race humaine perdue, descendante d'Adam. Et est-ce que vous pouvez entendre Jésus? Est-ce que vous pouvez l'entendre maintenant? Qui dit, comme c'est écrit dans Lamentation, chapitre 1, verset 12, « N'êtes-vous pas touchés, vous tous, qui passez par le chemin ?» Est-ce que vous l'entendez, Jésus, maintenant? C'est ça que l'on veut, entendre Jésus nous parler d'une manière qui va éclipser et faire disparaître de notre champ de vision les tentations et les diversions du diable. Il dit sur la croix, il est sur un chemin où les passants passent de gauche à droite, il n'est pas sur une montagne, non. Il est sur un chemin, les gens passent de gauche à droite, ils voient le Fils de Dieu entre deux malfaiteurs et dit « Quelle est cette personne que tout le monde moque ?» Et il passe et il dit « Mais n'êtes-vous pas touchés, vous tous qui passez par le chemin ?» Voyez s'il y a une douleur pareille à ma douleur, dont j'ai été frappé, affligé, moi que l'Éternel a frappé au jour de sa colère. Écoutons par la foi l'appel de Jésus à notre amour. J'aimerais, pour commencer à conclure, lire ce passage de l'esprit de prophétie dans Premiers Écrits à la page 112 au paragraphe 4. Parce que si nous arrivons à nous saisir de cet or, pas d'un symbole, non, pas d'un symbole, si nous arrivons à nous saisir de cet or qui n'est autre que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, si nous arrivons à nous saisir de cet or comme une barrière, comme une forteresse, comme une tour de refuge face aux tentations de l'ennemi, alors est-ce que cela va créer en nous une capacité à être préparé à la venue du Seigneur Jésus en gloire? Est-ce que cette activité d'acheter de lui cet or pour aussi être vêtu du vêtement blanc qu'il nous propose et avoir ce collier pour voir tel qu'il voit et non pas comme le diable voudrait que l'on voit et non pas comme nous voyons selon l'homme charnel. Si nous nous saisissons de cet amour, quelle pourra être l'expérience que nous ferons vis-à-vis de nos affections et de notre espérance de la vie éternelle? premiers écrits, page 112 et verset 4. Les joies véritables et les consolations du chrétien devraient être et seront au ciel. Les âmes languissantes de ceux qui ont connu les puissances du monde à venir, qui ont goûté les joies célestes, ne sauront se satisfaire des choses de cette terre. Ceux-là trouveront assez à faire dans leur moment de loisir. Ils seront attirés vers Dieu, là où est leur trésor, là aussi sera leur cœur. Et ils auront, avec le Dieu qu'ils aiment et qu'ils adorent, une douce communion. Ils prendront plaisir à contempler leur trésor, la sainte cité, la terre renouvelée, leur demeure éternelle. Et alors qu'ils méditent sur ces choses sublimes, pures et saintes, le ciel se rapprochera d'eux. Ils sentiront la puissance du Saint-Esprit, ce qui les éloignera de plus en plus du monde et placera leur consolation et leur principale joie dans les choses du ciel, leur paisible demeure. La puissance qui les attirera vers Dieu et vers le ciel sera si grande que rien ne saura détourner leurs esprits de leurs tâches importantes, assurer le salut de l'âme, honorer et glorifier Dieu. La puissance qui les attirera vers Dieu. Qu'est-ce que nous avons lu? L'amour de Dieu est quoi? Plus fort que la mort. Et quand les tentations mortelles veulent vous assaillir et vous faire trébucher et vous faire sombrer dans la damnation éternelle, dans une vie séparée de Dieu, dans une vie déliée de Jésus-Christ, lorsque ces choses viennent à vous, frères et sœurs, et elles viendront, prenez mes paroles au mot, elles viendront lorsque ces choses viennent à nous, frères et sœurs. Cet amour de Dieu que nous avons contemplé, cette puissance, si nous la saisissons vraiment, si nous arrivons à y discerner un amour dévoué personnellement à moi, pécheur, cette puissance nous attirera vers Dieu et sera si grande que rien ne saura détourner notre esprit de notre tâche importante qui est d'assurer notre propre salut et d'honorer et glorifier Dieu. Elle continue. Lorsque je pense à tout ce qui a été fait pour que nous restions dans le droit chemin, je suis poussé à m'écrier, « Oh, quel amour! Quel merveilleux amour le Fils de Dieu n'a-t-il pas eu pour nous, pauvres pécheurs? Serions-nous indifférents et insouciants pour tout ce qui a été fait pour notre salut? Le ciel tout entier s'intéresse à nous. Nous devrions être pleins d'ardeur pour honorer, glorifier et adorer le Très-Haut. Nos cœurs devraient déborder d'amour et de gratitude envers celui qui a manifesté tant d'amour et de compassion à notre égard. Honorons-le par notre conduite. et montrons par nos paroles pures et saintes que nous sommes nés d'en haut, que ce monde n'est pas notre patrie, que nous ne sommes ici-bas que des étrangers et des voyageurs en route vers un pays meilleur. Voilà. Voilà le résultat de ce que cet amour peut faire. Vous avez ici une promesse divine qu'il nous faut nous saisir par la foi de Jésus. N'essayons pas de faire cela par notre foi en Jésus, mais que cet or qu'il nous conseille d'acheter de lui, éprouvé par le feu, soit la chose qui est notre contemplation et notre méditation dans le sens concret tel que nous l'avons observé ici à travers notre étude et constaté qui est l'amour de Dieu. Un amour concret, un amour qui aurait sacrifié le Fils de Dieu uniquement pour vous ou moi. Uniquement pour vous, si vous étiez la seule personne sur la terre, il aurait fait ce sacrifice. Parce que son amour est plus fort que la mort. Et il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Pas de plus grand amour. Il est sans limite et sans borne. Ce sont les compassions et la miséricorde infinie de notre Père céleste. Et comment est-ce que Jésus, avec quelle intensité, est-ce que Jésus exprime cet amour de Dieu qu'il est venu nous révéler? Si vous allez dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, verset 24, il prie ici au Père et il prie pour ses disciples et tous ceux qui croiraient en lui par leurs paroles, par leurs enseignements. Et il dit, verset 24, « Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Verset 26. « Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi-même je sois en eux. » C'est le développement, l'extension du conseil qu'il fait à Laodicée. Il dit qu'il se tient à la porte. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et l'expression, l'intensité de l'expression de Jésus, de cet amour, de cet or qu'il avait en lui et que Dieu lui avait donné et qu'il avait épousé. Maintenant, c'est qu'il dit « Je désire que ce que tu m'as donné soit avec moi, où je serai. » Il veut que nous soyons avec lui. Il a dit, je leur ai fait connaître ton nom, qui tu es, ton caractère, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi-même, je sois en eux. Voilà ici l'invitation du Seigneur Jésus à une relation salvatrice, une relation baignée dans l'amour insondable de Dieu. Puisse cette foi-là, qui est née de l'amour de Dieu, être aussi en nous, tandis que nous nous soumettons, que nous soumettons notre vie à la volonté de Dieu. Et puisse cela faire naître en nous une expérience vivante d'être là où Jésus est, afin qu'il fasse nos délices et que nous aspirions sans cesse à vivre éternellement avec lui dans le ciel. Il faut et puisse cela être notre expérience et notre espérance vivante née de l'amour de Dieu. Et par ce moyen vivant, nous serons préparés à recevoir Jésus lorsqu'il revient. C'est notre appel, frères et sœurs. Puissions-nous permettre au Saint-Esprit de faire résonner cela dans nos cœurs. Et nous allons en avoir besoin d'une manière plus intense que jamais. Rappelez-vous, c'est le conseil à l'église de Laodicée. C'est le conseil qu'il adresse à l'ange. Mais il dit à l'ange, si tu ne veux pas recevoir mon conseil, je te vomirai de ma bouche. Il est le témoin fidèle et véritable. Donc cela veut dire, s'il le dit, il va le faire. Et si nous explorons l'histoire de l'Église adventiste du septième jour, nous voyons que c'est exactement ce qui s'est passé. Nous voyons à travers une étude approfondie et sincère de la parole de Dieu et des témoignages de l'esprit de prophétie que le ministère auquel Dieu avait confié la charge sacrée des vérités présentes pour ce temps, ce ministère à l'époque et dans au temps de la servante du Seigneur, Ellen White, s'est montré infidèle, a rejeté les appels de la grâce, s'est endurci dans une infidélité et a donc dû faire l'expérience de cette promesse et cet avertissement de Jésus. Je te vomirai de ma bouche. Donc, mais par la grâce de Dieu, ce sera notre prochaine étude. Comment et à travers quels événements et quels déroulements historiques ce processus s'est révélé à travers les membres de l'Église adventiste du septième jour. Et comment Dieu a choisi et avait prophétisé que d'autres reprendraient le flambeau après eux. Et nous verrons cela à travers l'inspiration, pour que nous obtenions une assurance prophétique et que l'étoile du matin se lève véritablement de nos cœurs. Puisse ces choses ne pas nous quitter et que nous nous souvenions de l'amour de Dieu qui l'a poussé à faire ce sacrifice. Et rappelez-vous ce qui est écrit. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi. C'est ma prière que l'on puisse marcher avec le Seigneur Jésus et que cet amour qui était en lui soit en nous et que nous soupions avec lui à travers cette dernière période de la grande tentation. Au nom de Jésus. Amen.